l'homme qui a marché sur la Lune, cette date-là est une date fondatrice de cet esprit. Vouloir explorer le futur, vouloir se l'approprier.
Jean-Michel Jarre est l'un des pionniers de la musique électronique. Il s'est déjà produit aux quatre coins du monde, notamment à Houston pour les 25 ans de la NASA. En 2019, pour les 50 ans d'Apollo 11, sa musique sera, plus que jamais, tournée vers l'espace.
Alors le jour où l'homme a marché sur la Lune, on avait préparé cette soirée avec plusieurs copains. C'était l'époque où j'étais déjà au groupe de recherche musicale à trafiquer pas mal de sons. Et j'avais aussi un groupe avec lequel je jouais. Et on était dans le garage où on répétait, pas très loin de chez moi. Et on avait décidé de faire une partie de ping-pong en peignant la balle de ping-pong comme la Lune. Et donc on a fait une partie de ping-pong toute la nuit avec la télé qui fonctionnait. Ensuite, je suis remonté chez moi, j'avais de la musique à faire et je me suis mis avec un, je me souviens très bien, avec un orgue Farfisa, que j'ai d'ailleurs toujours, que j'ai fait rentrer dans un magnétophone pour créer une sorte de délai infini. Et en fait, j'ai improvisé en regardant les images de la Lune. Et ce qui m'ennuie énormément, c'est qu'en fait, au premier ménagement, je l'ai perdue, cette bande. J'ai un petit espoir pour la retrouver, j'espère pouvoir la retrouver peut-être avant 2019, ce serait bien. L'idée de Kennedy, on va aller sur la Lune, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Il y avait toute cette idée qui, moi, m'a beaucoup marqué, même dans la manière de conduire ma vie et mon existence, le fait de vouloir repousser les frontières dans mon travail, dans ma vie. Enfin, je pense que c'était quelque chose d'extrêmement fondateur. Ce rapport à la Lune, je dirais, m'a suivi, ce rapport à l'espace, puisque plus tard, j'ai fait ce concert à Houston à l'occasion du 25e anniversaire de la NASA. Ça a été une aventure extraordinaire parce que ce concert est encore le concert qui est dans le lead record, je crois, aux États-Unis pour le plus grand nombre de spectateurs réunis sur le sol américain. Et avec l'idée que un astronaute pourrait jouer dans l'espace en direct, en live avec moi sur scène à Houston. Cet astronaute, c'était Ron McNair. Et malheureusement, il y a eu la tragédie du Challenger.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. La plus grande catastrophe de l'astronautique américaine s'est produite cet après-midi. La navette Challenger a littéralement explosé.
À l'époque du concert de Houston, on avait discuté avec les gens de Houston et j'étais sur la liste de gens potentiellement qui pouvaient partir. Et je me souviens toujours parce qu'il y avait deux musiciens à l'époque, c'était Johnny Rivers, le gars de country music, et moi. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais ça m'aurait plu et ça me plairait toujours. Mais en échange, la NASA a nommé un astéroïde à mon nom. Bon, alors, il est un peu petit, il est assez laid, mais enfin bon, il est à moi, donc... Moi, j'avais été, comme beaucoup de gens de ma génération d'ailleurs, extrêmement marqué par 2001, Odyssée de l'espace, qui pour moi a été dans ma vie certainement une des plus grandes sources d'inspiration. Pas seulement le film, le silence aussi. Ce qu'on sait peu, c'est que Kubrick a envoyé différents ingénieurs du son pour enregistrer 7 sortes de silences différentes pour le film. Quelques années plus tard, 2010 sort, la suite de 2001, Odyssée de l'espace. Et j'étais à Londres à ce moment-là, je me précipite sur le livre et je m'aperçois que dans les remerciements, Arthur Clarke me remercie parce qu'il a écrit la suite de 2000 ans en écoutant ma musique. Et donc du coup, une correspondance s'établit avec lui et on devient très amis. Et on a beaucoup parlé évidemment de la Lune et lui, il avait une obsession, c'est de me dire un jour tu feras un concert sur la Lune. Et je lui dis, mais Arthur, c'est pas sérieux, parce que de toute façon, il n'y a pas de son par définition. Il me dit, non mais à ce moment-là, tu trouveras un moyen. Bien entendu, l'espace est toujours une grande source d'inspiration. Je pense que nous, les musiciens, notre boulot, c'est quand même l'exploration de l'espace. C'est-à-dire que la 3D, c'est quand même nous qui travaillons dessus depuis des siècles, bien avant que les gens des technologies visuelles, du cinéma ou autres s'y penchent. Puisque, par exemple, quand je vous parle, le son qui part de ma bouche et qui arrive à vos oreilles doit absolument traverser l'espace. Donc la musique est une affaire de temps et d'espace. Donc, d'une certaine manière, l'espace est une partie induite de notre boulot quotidien. Et donc, on a forcément à cause de ça une relation avec l'espace immédiat, mais aussi avec l'espace qui me semble être très particulière par rapport aux autres artistes. Il y a une harmonie de la nature, il y a une harmonie des planètes, il y a même un son des planètes. Mes amis astrophysiciens m'ont fait le cadeau l'année dernière de m'offrir le son de notre système solaire, puisque chaque planète a une fréquence, et quand on la divise pour qu'elle rentre dans le spectre auditif de l'homme, on a le son du soleil, le son de la lune, et c'est une des choses que je voudrais explorer. Je vais vraiment m'y coller en début 2019 parce que ça fait partie aussi du jeu de fêter les 50 ans de l'homme qui a marché sur la lune. Je voudrais justement utiliser le son des vibrations solaires qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et ce qui est très amusant, quand on écoute la fréquence du soleil et la fréquence de la lune, il y a une fréquence définitivement masculine et une fréquence féminine.
L'histoire raconte que sur la Lune, en ce 21 juillet 1969, les astronautes ont entendu un sifflement, une musique bizarre. Était-ce la fréquence féminine de la Lune, dont parlait Jean-Michel Jarre, ou une toute autre musique? Et vous, Jean-Michel Jarre, qu'auriez-vous dit en marchant sur la Lune à la place de Neil Armstrong?
Si j'avais été à la place de Neil Armstrong en posant le pied sur la Lune, je n'aurais pas réussi à battre la phrase extraordinaire qu'il a dite de manière inconsciente, qui restera dans l'histoire, bien entendu. Je pense pas qu'il l'ait préparé. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien, parce que c'est trop beau pour être vrai, mais c'est possible.